bonjour à tous. Et ce soir, on s'est retrouvés, Gabriel et moi, pour discuter ou réagir à un élément d'actualité et essayer d'apporter quelques éléments de fond, une discussion de fond, quelques pistes autour de cet élément-là. Et ce à quoi je fais référence, c'est le fait suivant. On a lu récemment des reportages comme quoi le taux de demande d'Alia de France vers Israël a énormément augmenté relativement à l'année dernière. Plus spécifiquement, on parle de 430% ou 450% selon les sources d'augmentation de demande d'Alia. Et dans la situation actuelle où Israël est un pays en guerre depuis plusieurs mois déjà et qui a vu une attaque terroriste à large échelle, plus grande échelle même que tout ce qui a pu se faire dans d'autres pays, on se demande qu'est-ce qui pousse les gens à prendre leurs affaires et se dire c'est peut-être une bonne idée de venir habiter en Israël. Et voilà, avec Gabriel, on s'est retrouvés, on voulait discuter de ça et peut-être évoquer quelques éléments. Bonsoir Gabriel.
Salut Yaya.
Ouais, alors, c'est clairement qu'est-ce que tu penses de cette idée, de ce qui se passe?
C'est clairement quelque chose qui est assez admirable qu'on est en train de voir en France en particulier. Il y a quasiment x5 de personnes qui font une démarche comme ça d'Alia. Et il faut essayer de réfléchir à ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se réveille justement à un moment qui est un moment assez terrible? On a vécu un choc grave et important qu'on n'avait pas vécu dans le peuple juif depuis très longtemps. Et justement, à ce moment-là, il y a un réveil de volonté de venir vivre en Israël. Et c'est sûr que si notre modèle jusque-là, c'est le fait de dire que Israël, c'est le pays refuge, on y va pour la sécurité, on fuit l'antisémitisme, alors c'est un petit peu compliqué de faire rentrer ça dans cette case-là. Même si il y a peut-être quelque chose de vrai, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un ressenti en France ou ailleurs d'une animosité dans certains endroits, d'une incompréhension, de certaines manifestations qui font peur. Mais de là à venir dans un pays qui vient de vivre une telle attaque, je pense qu'il y a quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui est plus profond, et c'est ça ce qu'on va essayer d'explorer.
C'est vrai qu'il y a là une problématique, parce que certains diront que c'est effectivement dû aux vagues d'antisémitisme qu'on a pu voir en France, la montée de la gauche extrême, qu'on a vu ça aussi à Londres, mais en tout cas en Europe en général, il y a eu des manifestations d'antisémitisme assez terrifiantes.
Je pense qu'il y a aussi ça, mais c'est intéressant, j'ai essayé d'écouter quelques témoignages, il y avait un salon de l'Alia, et donc il y avait un micro qui circulait, on demandait aux gens, et il y avait quelque chose d'autre qui apparaissait. Et en fait, à mon avis, ce qui apparaît, qui est vraiment très profond, c'est un sentiment d'appartenance. C'est sentir justement, dans ce moment de douleur du peuple, un sentiment de cette douleur-là, qui se passe a priori loin, on parle de gens qui sont à Paris, à Marseille, etc., cette douleur-là qui s'est passée en Israël, dans le pourtour de la bande de Gaza, je la ressens dans ma chair. Je sens que j'appartiens à ça. Entre guillemets, je ne sens qu'on fait qu'un. Et cette chose-là, c'est ce qu'on pourrait appeler une autre manière en fait de se définir. Est-ce que je me définis juste comme un individu, un individu qui peut-être partage une certaine culture commune, une religion commune, ou est-ce que en réalité je suis pas vraiment un individu, mais je fais partie d'une entité, un peu comme une cellule ferait partie d'un corps. Et on a beaucoup de nos textes qui justement parlent du peuple d'Israël comme un organisme, comme une seule et même entité. On n'est pas juste des individus qui sont liés par le même message, la même loi, mais il y a quelque chose de beaucoup plus organique, comme une seule et même âme, un seul et même corps. On va voir ça par exemple au moment du don de la Torah. On dit « Vayichan Israël », que Israël a campé, et on parle d'Israël au singulier. Et là-dessus, le Midrash va dire « Ke'ish echad belev echad », comme un seul homme avec un seul cœur. Il y a cette dimension-là. On voit aussi dans Shmuel, qu'on parle de Goy Echad Baaretz, on parle d'un peuple qui est un, qui est profondément un. Et cette idée-là, le fait de dire que peut-être que notre manière de se définir au quotidien, comme je suis un individu, j'appartiens à une certaine communauté dans le sens où on partage des valeurs, une culture, etc. Là, je pense que dans des moments qui sont des moments tellement extrêmes, en fait, d'un coup se révèle quelque chose d'autre, d'un coup se révèle une autre couche de l'être, plus profonde, où je me rends compte que je suis pas juste un individu, mais je suis une partie d'un tout. J'appartiens à un klal, j'appartiens à une collectivité, et fondamentalement, je fais partie de cette destinée-là. Et un petit peu comme dans un grand corps, lorsque un grand corps est poignardé quelque part, c'est le corps entier en fait qui réagit. C'est pas juste le lieu en question, c'est le corps entier qui se rend compte qu'il lui est arrivé quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est passé justement, à mon avis, et qui se passe encore dans ce que le peuple d'Israël est en train de vivre, qui est que une grande partie du peuple, partout, réalise que il appartient à ce tout-là. Il a envie d'œuvrer pour ça, il a envie de faire partie de cette destinée-là de manière active, parce qu'il y a quelque chose qui s'est, qui s'est débloqué ici, dans ma conception même de qui je suis. Est-ce que je suis juste un individu ou est-ce que j'appartiens à...
Est-ce que tu penses que c'est un événement qui a généré une mutation, ou en tout cas une transformation d'identité, en fait? Chez beaucoup de gens, en tout cas chez beaucoup de juifs en France, qui se sont, qui peut-être se vivaient entre les deux, peut-être qu'il y avait quelque chose pour Israël, comme tu as dit, peut-être une culture, de religion, et qui se sont découverts comme primordialement juifs, dans le sens où ils sont aussi primordialement israéliens, quasiment.
Je pense qu'il y a des,
ma place est là-bas.
Il y a des lieux de l'être auxquels on n'a pas accès tout le temps. Et parfois, il y a des choses qui font que d'un coup, t'as accès à ça. Il y a un texte que j'aime beaucoup, qui a été écrit par le Rav Shimon Shkop. Le Rav Shimon Shkop était un des plus grands un des plus grands talmudistes du fin 19e, début 20e. Et il a écrit un livre qui s'appelle Shaari Yosher. Et dans son livre qui s'appelle Shaari Yosher, il y a une introduction qui est une introduction un peu plus de pensée juive. Le reste du livre, c'est un texte plus talmudique, de Pilpoul. Et dans son introduction, il y a quelque chose de très intéressant. Il parle justement de comment l'homme se vit. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il dit « je » C'est quoi le « je » Et il dit que c'est ça ce qui va finalement nous définir le niveau de l'homme, le niveau d'être de l'homme. Il y a des personnes, lorsqu'ils disent « je », ils parlent en fait de leur corps, de leur pulsion, de leur volonté corporelle. C'est ça ce qu'ils ressentent. C'est ça la voix qu'ils entendent lorsqu'ils disent « je », c'est d'abord le monde... qu'on appellerait en hébreu du gouf nefesh, du corps et du monde des pulsions et des instincts, etc., de la vitalité du corps, on va
la
dire.
La vitalité.
Il va y avoir quelqu'un qui déjà, lorsqu'il dit « je », c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus complexe, où il y a une dimension de corps, mais aussi une dimension d'esprit, de recherche de sens, de curiosité, etc. Et la personne, lorsqu'il dit « je », il se vit déjà comme un être qui a cette complexité-là, entre ciel et terre, entre corps et intériorité. Et il continue, il dit « il y a des personnes où leur... lorsqu'ils disent je, ce je s'est agrandi en un nous qui est le nous familial. C'est le nous familial. Oui. Ces personnes-là se ressentent qu'ils font, voilà, en général, c'est ce qui se passe au moment du mariage ou lorsqu'on a un premier enfant, etc. C'est qu'on sent que, lorsque mon fils ou ma fille, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est mon identité qui s'est élargie, en fait. Lorsque j'œuvre pour eux, je suis pas en train de faire quelque chose pour l'autre. Avec un grand A. Je suis en train de, c'est un nous, en fait. Le jeu est devenu un nous. C'est un élargissement de l'être.
Et c'est vrai que c'est un phénomène. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui peuvent témoigner après un certain nombre d'années de mariage. On a du mal à concevoir qu'on est quelqu'un d'autre que le mari de, ou la femme de, ça devient une espèce de seconde nature.
Ouais, et ça se voit même, tu te soucies
pareil
de
pour les enfants.
Ton monde de soucis, eh ben, il est pas juste sur toi. Ça, c'est dans le milieu, c'est quand tout se passe bien.
Quand tout se passe bien.
Et là, le Rav Shimon Shkop dit, et il y a un niveau qui est au-delà de ça, hein, qui est que la personne, lorsqu'il dit je, eh ben, ce cercle-là s'est agrandi jusqu'à ce qu'il sent que ce jeu-là, c'est Klal Israël, que ce jeu-là, c'est le peuple juif. Mmh. Et son souci, c'est le souci du peuple, et son œuvre, c'est l'œuvre pour cette grande collectivité-là. Et c'est quelque chose, à mon avis, que dont lui parle, qui est peut-être quelque chose qui est assez, qui est pas évident à atteindre, qui est assez élevé. Mais je pense que dans des moments qui sont des moments aussi exceptionnels, dans le mauvais sens du terme, aussi terribles qu'on a vécu, c'est des moments où d'un coup on a accès à ça. D'un coup on ressent cette espèce de conscience que on ne fait qu'un et que la douleur qui se passe là-bas, eh ben c'est ma douleur à moi.
Il y a par exemple, ce que tu me dis, ça fait penser à plusieurs choses, notamment, je ne sais pas si les gens se souviennent ici, du nom de Daniel Pearl. Mmh. Mais ceux qui se souviennent, Daniel Pearl, c'était un journaliste américain, juif, qui a été capturé par l'État islamique et qui a été mis à mort par l'État islamique. Et ils ont filmé l'exécution et ses derniers mots, c'est « I'm a Jew ». C'est vraiment, ça a eu un retentissement énorme dans la communauté juive américaine. Ouais. Et parce qu'effectivement, au dernier moment, la dernière identité, la dernière chose à laquelle Daniel Pearl arrive, c'est qu'il est un juif et qu'il comprend qu'il est tué à cause de ça, entre autres. Mmh. À cause de ça, effectivement, l'État islamique, une espèce de guerre, de djihad contre les États-Unis et contre beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais il y a de ça. Et c'est pas la seule histoire où beaucoup de gens finissent leur vie en disant, qu'est-ce que j'ai été? J'ai été un juif. J'ai été un hébreu. Certains aussi bien.
Et là, maintenant, le lien qu'il faut essayer de faire, c'est le lien avec l'alia, en fait. Et je pense que le lien avec l'alia, hein, c'est si maintenant ça devient tellement, tellement ressenti, tellement évident, en fait, au niveau profond de l'être, que on n'est pas juste des individus qui partagent, voilà, un certain terreau, une certaine richesse qu'on partage, etc. Chacun depuis sa synagogue, mais qu'on appartient à une même entité, à un même collectif. Si c'est vraiment ça qui est ressenti, si on ressent le nous, alors d'un coup, il y a quelque chose qui est assez évident, en fait, dans le fait que bah, j'ai envie d'être parmi les miens, et j'ai envie d'œuvrer parmi les miens, et j'ai envie d'apporter ce que je peux apporter, j'ai envie de construire cette collectivité-là. Et j'aimerais citer un texte que j'aime beaucoup du Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, au premier chapitre. Et là-bas, le Maharal définit qu'est-ce que l'exil et qu'est-ce que la Géoula, qu'est-ce que la libération de l'exil, qu'est-ce que la sortie d'exil. Donc on a là-bas, grâce à ce chapitre-là, on a une définition assez simple, assez claire du Maharal de Prague. Donc le Maharal dit que l'exil, c'est trois critères. Le premier critère, c'est le peuple est dispersé. Le deuxième critère, c'est que le peuple est pas sur sa terre. Le troisième critère, c'est que le peuple est sous le joug, sous le pouvoir politique, n'est pas entre nos mains. Ok ? Ça c'est galout, ça c'est la notion d'exil. La notion de Géoula, d'après le Maharal de Prague, c'est pas, on va dire ce qu'on pourrait dire l'utopie, le endgame, lorsque voilà tout sera
la fin du monde messianique, l'eschatologie, voilà,
lorsque tout ira bien, etc. Voilà. Mais chez le Maharal de Prague, la Géoula, c'est la norme, c'est le caractère normal des choses, À nouveau, d'après ces trois critères, c'est le peuple d'Israël qui est rassemblé et non pas éparpillé, c'est le peuple d'Israël qui est sur sa terre, et c'est le peuple d'Israël qui est avec son propre pouvoir politique. Cette notion-là, c'est la Géoula, d'après le Maharal de Prague. Souvent, ces notions-là de Galout et de Géoula, ces notions qui sont vues chez nous avec une espèce de charge énorme, on ne peut parler de Géoula, on peut parler de libération que lorsque tout sera rose et que le peuple d'Israël sera à son apogée avec le temple et plus de maladies et la paix dans le monde, etc. Alors que là, il revient à une définition qui est, non, la Géoula, c'est la norme. La Galout, l'exil, c'est la situation anormale.
Et d'après lui... Une interaction du français aussi, c'est-à-dire on traduit Begoula par rédemption, par le salut, etc., qui sont beau chargés.
Non, mais c'est religieusement. Je suis pas en train de dire qu'on aspire pas à ça. Bien sûr qu'on aspire à toutes les étapes de Géoula les plus complètes, etc., mais faut comprendre que, avant tout, c'est un retour à la norme. Et dans le langage du Maharal, il dit, et toute réalité anormale aspire à revenir à la norme. Ok? Comme un ressort qui a été tiré, mais qui aspire à revenir à sa normalité. Et donc,
pour les physiciens, il y a une énergie potentielle comme ça qui est...
Exactement. Et donc pour le Maharal, c'est évident. On est une entité qui s'appelle Klal Israël, comme on a dit, un même corps quasiment organique, etc. qui a été éparpillé d'après la tradition par nos fautes, etc. Et il y a tout un besoin de cette période-là pour que le peuple d'Israël ait une certaine fasse un certain processus, etc. Mais l'évidence, c'est que ce processus-là va se terminer et que un jour les forces qui veulent revenir à la normale, veulent revenir à la norme, se feront. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là qu'on ressent en fait, qui est que à partir du moment où jaillit la conscience collective, à partir du moment où d'un coup je sens que je fais partie d'un grand nous. Alors ça me paraît tout à fait bizarre d'habiter à Issy-les-Moulineaux et d'être ça me paraît, il y a quelque chose qui est étrange. Et j'ai envie de faire partie de cette chose-là, j'ai envie d'œuvrer, encore plus. Et c'est souvent, je trouve ça intéressant parce que souvent ce qu'on dit, c'est que vous venez maintenant en période d'adversité, etc. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui changeait de famille lorsqu'il y avait un moment d'adversité.
Au contraire. Au contraire, les coudes. Une
pas de réaction contre. Tu sens que c'est ça ta famille, c'est ça le corps auquel t'appartiens, c'est ça ton cercle. Et ben ok, c'est le moment où justement tu veux t'engager, tu veux participer, tu veux aider pour ça. Donc j'ai l'impression que là, en fait, on est en train de voir ce qui est en fait le fondement même de l'idée du retour et de l'idée du sionisme. Le fondement même, bien au-delà du fait de dire qu'on recherche un refuge, etc. Avant tout, c'est le sentiment qu'on appartient à une grande entité, qu'on n'est pas juste des individus, qu'on n'est pas juste des communautés, qu'on n'est pas juste relié par une même pratique ou une même loi, mais qu'on est un seul corps, une seule âme, et donc on a envie de vivre cette chose-là. On a envie de faire partie maintenant de cette renaissance, de cette entité-là qui ces 150 dernières années est en train de se faire.
Est-ce que tu vois encore d'autres mouvements à l'intérieur de ça, à part ce côté organique, ce côté qu'on a tous, qu'on partage tous cette identité-là qui est identité. Est-ce qu'il y a un mouvement qui est plus profond que celui-là?
En réalité, ça c'est la base, c'est le socle. C'est d'abord qui tu es, okay, qui on est. Et fondamentalement, on appartient à cette famille-là, on appartient à ce grand corps-là, on est une cellule dans ce grand corps-là et dans cette grande destinée-là. Maintenant, la question que ça éveille, c'est pourquoi ?
Pourquoi ?
Et au final, qu'est-ce qui se joue dans le fait que le peuple juif, maintenant, revienne ces 150 dernières années sur sa terre ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Est-ce que c'est juste... on est censé être ensemble, mais il n'y a pas trop de direction, etc. Et c'est un sujet qu'on a abordé ensemble dans un premier podcast, mais je pense que ça vaut le coup de revenir sur certaines notions. c'est assez important de revenir sur le fait que dans la Torah, de manière permanente, la parole et le message et le rôle que Hachem, que Dieu nous donne, c'est à travers le vecteur qui est le vecteur du peuple. Pas juste celui d'un individu, c'est pas l'individu qui fait face au message divin, mais c'est « V'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goy kadosh ». Vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. C'est on va dire, l'introduction du don de la Torah, juste avant le don de la Torah dans la paracha de Yitro. On a cette phrase-là. C'est-à-dire que vous devez jouer votre rôle, pas juste sous forme de communauté aux quatre coins du monde, mais vous devez jouer votre rôle sous forme de collectif, sous forme de société. Et l'idée, à mon avis, qui est derrière, et ça se voit de manière évidente lorsqu'on connaît un petit peu les lois juives, elles ne peuvent pas être accomplies uniquement en tant qu'individu ou même en tant que communauté. Énormément de lois juives sont des lois qui concernent une société. C'est comment organiser de manière juridique une société.
Énormément de lois juives. Pour rendre ça concret pour les auditeurs.
Évidemment, il y a toute une partie qui est une partie des lois du commerce, des lois pénales, etc. On a une manière juive aussi d'aborder les notions d'éthique militaire. Okay, donc on doit avoir une armée. On a une manière juive d'aborder notre rapport à la terre, à l'agriculture. Toute une partie dans la Mishnah est composée de 6 ordres de Mishnah, une partie entière qui est le rapport à l'agriculture et qu'est-ce qu'on doit donner aux pauvres, qu'est-ce qu'on doit donner aux Kohanim, aux Lévi'im, etc. Comment on gère exactement cette abondance-là. Donc, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu pas uniquement ce que le judaïsme demande à l'individu au quotidien, mais le macro, la big picture, c'est avant tout un message qui est là pour structurer une société jusqu'à l'individu. Aussi, on aura quelque chose à dire à l'individu. Mais c'est aussi comment créer un modèle civilisationnel. Comment créer une manière d'être homme de manière complète. Et une manière d'être homme de manière complète, c'est pas juste un individu qui peut faire ça.
Alors est-ce que cette manière d'être, donc cette manière de faire société, ou cette, ce qui, comme tu le dis très bien, la Torah, c'est aussi un set de régulations sociales qui sont censées être implémentées par un système de justice, par un système politique. Il y a sur toutes les strates de la société, de l'individu jusqu'aux instances suprêmes, comme le roi des lois. Il y a des lois pour le roi, dans la Torah, il a pas le droit d'avoir trop d'argent, trop de chevaux, etc. Quoi que ça veut dire, etc. Il y a des limites à son pouvoir. Il y a des choses qui l'obligent. Ce modèle de société, est-ce qu'il est à quoi il sert au fond? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste qu'on doit implémenter une espèce de société parfaite ici? Ou est-ce que ça a un autre but? Est-ce que ça a un but vers l'extérieur? Est-ce qu'on doit proposer ce modèle-là à tout le monde? Est-ce que tout le monde doit suivre ce modèle-là?
La première parole que Dieu a à Abraham, c'est, donc juste après l'avoir dit, l'Echlecha, quitte la maison de ton père, etc., et tu iras sur une terre que je te montrerai, Vesra l'Egoy Gadol, je ferai de toi un grand peuple, Venivrechou, Becha, Kol Mishperot Adama, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Donc, il y a toujours cette notion que, à travers ce modèle civilisationnel, à travers une espèce de particularisme, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir rayonner, qui va pouvoir inspirer, qui va pouvoir, on est loin du djihad qui va obliger les gens mais essayer de proposer une certaine manière d'être qui pourra peut-être inspirer et proposer un autre modèle, une autre manière de gérer les enjeux de la vie, les enjeux de la vie humaine, une manière de faire le pont entre ciel et terre, ce qui est l'enjeu, on va dire, de la vie humaine. Et pour ça, on a besoin de le réaliser sous forme de collectivité, et pas uniquement sous forme d'individu. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, la manière dont le peuple juif a vécu l'exil pendant 2000 ans, il n'a pas vécu comme c'est la nouvelle norme. Et c'est comme ça qu'on doit être, et c'est comme ça que le peuple juif doit jouer son rôle, etc.
Il y a eu des voix comme ça, soyons honnêtes, il y a eu des voix comme ça. C'est-à-dire,
elles sont infimes, et elles sont très très difficilement prouvables et argumentables dans nos sources. À partir du moment où trois fois par jour, tu pries « Tekab et Shofar Gadol et Cheruté nous sonne » d'un grand shofar pour nous rassembler, à partir du moment où trois fois par jour, tu pries pour le retour à Jérusalem et la reconstruction de Jérusalem, c'est compliqué de dire que, en réalité, notre rôle, c'est juste d'être des communautés au sein des peuples.
Attends, je veux juste décomposer un peu ce que tu viens de dire, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Tu dis, premièrement, que la Torah, c'est un message fondamentalement collectif, fondamentalement national, pas dans le sens où, dans le sens de nationalisme, mais dans le sens où il s'adresse à une nation. C'est-à-dire que, au lieu d'être juste une religion pour l'individu, pour le salut de son âme personnelle, il y a ici un propos sociétal profond, qui intime, qui invite à construire une société selon certaines valeurs, selon certains systèmes, et que le but finalement, ce n'est pas non plus de porter ce message et de forcer tout le monde à l'accepter, mais de démontrer sur le terrain que ça fonctionne. C'est-à-dire de venir, de le faire, et de rayonner de ce modèle-là, de proposer ce modèle-là, et que, de façon naturelle, si ça marche, les gens le feront.
C'est ça, c'est-à-dire ne plus être juste le peuple du livre. Non, le peuple du livre, c'est en théorie, ça marche.
Voilà.
C'est, voilà, le mode d'emploi, il est sympa. On n'a pas essayé de construire, on n'a pas essayé de faire fonctionner le.
Faut assumer ses idées.
Ça, c'est, le peuple du livre, c'est, à mon avis, c'est pas notre réalité. Notre réalité, c'est pas juste d'étudier sur les cas de loi du commerce, etc. Le but, c'est de vivre ces lois-là et de créer des vies qui ont cette colonne vertébrale-là et qui ont cette intériorité.
Tu te prends 2000 ans et après, peut-être que tu peux faire quelque chose.
Exactement. Pour essayer de faire rentrer ça un petit peu dans ce que le peuple juif a vécu ces 150 dernières années, on a eu cette attente pendant 2000 ans où trois fois par jour, on priait pour le retour, où chaque Pessah, on disait l'an prochain à Jérusalem, où chaque marié cassait un verre en disant si je t'oublie Jérusalem, etc. Donc, on a réussi à garder, en fait, cette espèce de tension de ne pas accepter comme nouvelle normalité le fait que le peuple juif, c'est la diaspora, c'est une réalité comme ça éparpillée qui va diffuser un certain set de valeurs aux quatre coins du monde. Mais il y avait toujours cette tension dans le peuple juif de volonté de retour. Et il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Ces 150 dernières années, maintenant on a suffisamment de recul, peut-être que les premiers instants c'était pas évident de le repérer, mais on va dire maintenant on a suffisamment de recul pour dire en 150 dernières années, c'est une histoire incroyable, unique dans l'histoire des peuples, où un peuple qui a été en diaspora aux quatre coins du monde arrive à petit à petit revenir des quatre coins du monde, comme c'est si bien dit dans le livre de Devarim. On dit imien idarecha bikteh hashamayim misham ikabesra hashem misham ikarecha. Même si tes exilés sont au fin fond des cieux, de là-bas, j'arriverai à les faire revenir, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de belles histoires de juifs qui sont revenus d'endroits complètement incroyables.
Et inattendus.
Inattendus, exactement. Et on, c'est à mon avis un regard juif qui est un regard dans lequel la transcendance, c'est pas juste quelque chose qui est complètement déconnecté du monde et déconnecté de l'histoire, mais la transcendance aussi habite l'histoire et porte un souffle pour l'histoire. Alors, on peut pas revoir ce qui s'est passé ces 150 dernières années sans dire il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et ces célèbres prophéties qui sont pleines dans toute la Bible du fait que le peuple juif va revenir après un long exil se réalisent. Quelque chose d'unique dans l'histoire des peuples, un peuple arrive à renaître de ses cendres et se rassembler, et refaire nation et refaire corps, etc. Et baladez-vous en Israël et demandez aux gens d'où viennent leurs grands-parents, et ça va être l'un du Yémen, l'autre de Pologne, le troisième de Djerba. Et c'est ça. Et tout le monde revient ensemble et se remarie ensemble, etc. Donc, on est face à quelque chose où, à mon sens, on n'a pas le droit, dans un regard, qui est un regard de pensée juive, on n'a pas le droit de dire que cette chose-là, c'est uniquement le fruit de, d'une chance historique ou de manœuvres politiques, etc. Et ne pas voir qu'il y a ici un souffle, qui est un souffle d'une providence, qui est un souffle de ce qui est au-delà de l'histoire.
On peut refuser d'interpréter aussi l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose de compliqué. On peut refuser de l'interpréter, l'histoire.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont frileux et ça s'entend et je comprends. Et moi aussi, je suis pas le premier à dire que chaque chose qui arrive, voilà, je vais vous montrer exactement où ça apparaît dans nos prophéties, etc. Mais, faut pas aller trop loin non plus. Faut pas aller trop loin dans cette frilosité. Parce que sinon, ça veut dire que ta conception, c'est que, le transcendant est complètement en dehors de l'histoire. Lorsque tu vois que tous nos textes disent qu'un jour le peuple juif va revenir, que trois fois par jour on prie pour revenir et que c'est en train de se faire, et que ça se fait, et que la terre d'Israël redonne ses fruits, et que le peuple d'Israël revient des quatre coins du monde, et que ça fonctionne, et que ça marche, alors que pendant 2000 ans ça n'a pas marché, alors c'est compliqué, à mon avis, de dire, ah, je sais pas, je veux pas en parler, je veux pas savoir, je veux pas regarder, etc. J'ai ouais. du mal avec cette manière-là de voir, et je pense que oui, c'est de notre responsabilité de dire, on voit qu'il se passe quelque chose ici, qu'il y a quelque chose d'important, qu'il y a un souffle, et que c'est un souffle qui nous responsabilise. C'est pas juste, évidemment, qu'on doit être capable de dire merci, mais aussi, ça nous responsabilise. Ça veut dire que si c'est ça, la prochaine étape, si c'est ça là où l'histoire va, le peuple juif se rassemble, et ça veut dire qu'il remonte sur la scène de l'histoire, c'est-à-dire qu'il doit se reconstruire, d'être capable à nouveau de pouvoir porter son projet, pouvoir porter sa manière d'être homme, sa manière de vivre. Et je pense que pour ça, il faut rentrer dans un champ lexical, qui est un champ lexical de ce qu'on appelle le kima-kima. Kima, ça veut dire, c'est une source dans le Talmud de Jérusalem, le Talmud d'Yerushalmi, où on nous parle de deux sages, Rabbi Chia Rabba et Rabbi Shimon ben Chalafta, qui étaient en train de se balader dans la vallée de Arbel, qui est à côté du lac de Tibériade, et ils voient le lever du soleil, et Rabbi Chia Rabba dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, Kach hi geulatam shel Israël, Kima Kima. Donc ils voient le lever du soleil, et Rabbi Chia Rabba dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, de cette manière-là se fait la libération d'Israël, qui m'a petit à petit, comme un lever de soleil qui se fait pas d'un coup, les choses se font petit à petit. Donc ça fait partie des sources qui sont des sources importantes, parce qu'on a des voix dans le peuple juif qui attendent une espèce de saut de l'histoire où d'un coup le peuple juif dispersé va d'un coup être propulsé dans une réalité utopique et on sera dans une espèce de libération magnifique, etc., de la fin des temps. Et on a des sources comme celle que je viens de vous citer qui disent autre chose, qui disent que non, c'est quelque chose qui va se faire sous forme de processus. Et ce processus là non seulement ça veut dire que c'est des choses qui prennent du temps, mais ça veut aussi dire que c'est la responsabilité humaine aussi. Contrairement à la sortie d'Égypte qui se fait d'un coup, qui se fait beripazon, qui se fait avec hâte, où d'une certaine manière le peuple juif est encore dans une dimension d'enfant qu'on prend par la main et qu'on propulse.
Et surtout complètement de la main divine, c'est-à-dire que c'est Dieu qui fait tout. Dieu dit à Moshé à chaque étape, va faire ceci, va faire cela, et vous Isaïe, allez sortir à cette heure-là, et c'est tout.
Dans Isaïe, il y a écrit « Lo beripazon tetsu, uvemenusa lo telechun ». Justement, il montre bien la différence. Il dit « Pour le dernier retour, ça sera pas beripazon, ça sera pas avec hâte. » Et dans le sens, à mon avis, qui est que ne soyez pas dans l'attente que que ça se fasse complètement d'en haut. Il y a un besoin de comprendre que c'est aussi notre responsabilité.
Et c'est intéressant parce que c'est aussi notre responsabilité, mais ça veut aussi dire que au lieu d'attendre effectivement une rencontre du troisième type avec des éclairs, des trucs, des grands miracles et des choses qui vont transformer le monde de façon brutale et qui vont démontrer aux yeux de tout le monde que nous avions raison depuis le début. Au-delà de ça, ça veut aussi dire que c'est pas forcément un processus linéaire, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui va et qui monte au fur et à mesure, sans à-coup, sans plus, sans moins, sans haut, sans bas. C'est quelque chose qui se fait difficilement, avec qui peut être retardé aussi, qui peut être accéléré,
Mais je pense que c'est assez important en fait de se rendre compte que c'est le message juif de manière générale. Le message juif, c'est un message qui est extrêmement responsabilisant. C'est un message où c'est pas juste tu dois être passif et laisser la providence tout faire, etc. Non, c'est un message qui est extrêmement responsabilisant, où l'homme a un rôle, où l'homme a un libre arbitre, où on peut bien faire les choses, on peut mal faire les choses, on peut retarder l'histoire, etc. Le fait que le message juif, c'est un message qui est de manière générale responsabilisant et de manière générale qui a conscience du fait que les choses se passent souvent à travers la capacité à surmonter l'adversité. Et donc le fait que et donc je pense que c'est assez important en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes dans l'imaginaire collectif juif, il y a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de on va être pris sur des ailes de d'aigle et on va être ramené et tout va se passer de manière extrêmement fluide, etc. Et j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas étudié le Tanakh, n'ont pas étudié la Bible. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà étudié un peu le Tanakh, il sait à quel point l'arrivée en terre d'Israël à l'époque de Josué, c'est quelque chose qui était très complexe. Il y a des combats qu'on a perdus. Il y a des moments où le peuple juif n'était pas à la hauteur. Il y a toute la période des juges où c'est des hauts et des bas sans cesse. Et il a fallu plus de 400 ans entre l'entrée en terre d'Israël et la construction du temple. Donc ça temporise beaucoup de choses. Comprendre que les choses ne se font pas de manière lisse. Il y a beaucoup de choses qui sont sur nos épaules et notre responsabilité. Et je pense que c'est assez important lorsqu'on est face aujourd'hui à des tels chocs qu'on est en train de vivre, de comprendre que ça ne veut pas dire qu'apparemment on s'est trompé si on pensait que c'était le moment du retour, etc. S'il y a de telles choses qui se passent, alors ça veut dire qu'on s'est trompé. Il y a un midrash dans Shirashirim Rabba qui dit que là-bas il y a écrit Domé Dodil et Tzvi dans Shirashirim, dans le Cantique des Cantiques, il y a écrit mon bien-aimé ressemble à un Tzvi. Comment tu traduis un Tzvi?
Un cerf.
Ok, très bien. Donc ça, c'est toujours le langage très poétique de Shirashirim, du Cantique des Cantiques. Mais là-bas, le Midrash dit que pourquoi on dit que Hachem ressemble à un cerf? Parce que lors du dernier retour, lors de la dernière Géoula, de la même manière qu'un cerf, apparemment, lorsqu'il court dans l'horizon, et ben, des fois, il saute et donc on le voit et des fois il disparaît parce qu'il marche ou il court. Et donc, en fait, pour que celui qui regarde, des fois il le voit, des fois il le voit pas. Donc il y a des sentiments de disparition en fait. Donc là, le Midrash dit de la même manière la dernière Géoula, où Nigla venir ça. La dernière Géoula, il y a aussi cette dimension là de quelque chose qui se dévoile et puis qui se recouvre, qui se dévoile et qui se recouvre. Ça fait partie de ces processus là, de ces processus de retour où les choses ne se font pas de manière linéaire, où il y a des moments de crise, où il y a des moments de difficulté. Mais je pense que là on est déjà 2 mois après le 7 octobre et on voit que à travers cette crise qu'on n'a pas choisie et qui est terrible, on voit aussi que c'est pas que du caché. Il y a aussi beaucoup de choses qui se dévoilent dans ce moment-là. À travers l'adversité, il y a beaucoup de lumière dans le peuple qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et je pense que ça répond aussi à notre première question qu'on a dit au tout début, qui est qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Juifs de France viennent, etc. Je pense que beaucoup de personnes ressentent ça, ressentent le fait que waouh, à quel peuple j'ai la chance d'appartenir, quel don de soi, quelle bravoure, on voit quelle unité. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu d'unité dans le peuple, malheureusement. Quelle solidarité. Et bon, il y a beaucoup de lumière. Et donc je pense qu'il faut qu'on s'habitue maintenant à un langage mûr du retour. Voilà, c'est ça. Plutôt qu'un langage imaginaire du retour où les choses vont se faire en un claquement de doigts et ça va se faire sur un plateau d'argent. Mais le retour, on voit depuis ces 150 dernières années que le retour est en train de se faire. Et c'est entre autres notre responsabilité d'arriver à faire en sorte qu'il se passe le mieux possible, d'arriver à faire en sorte que le peuple juif se reconstruise. Et c'est possible qu'on ait besoin aussi de toutes les forces qui sont aux quatre coins du monde, qui sont pas encore revenues. On a encore la moitié du peuple juif qui est pas là. C'est possible que vous ayez et que nous ayons tous quelque chose à apporter à cet édifice. On appartient à cette grande histoire. C'est possible qu'on ait quelque chose à apporter. Et
dans ce que tu as dit, ça me rappelle, il y a un très très bel article d'Emmanuel Levinas, professeur Levinas, qu'il a écrit dans le recueil qui s'appelle Difficile Liberté. Moi, c'est un article qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Une religion d'adulte. Et où il explique que le judaïsme, c'est pas une religion pour les enfants, où tout est parfait, où il y a des grands sauveurs. C'est une religion d'adulte avec des responsabilités, avec avant tout une question de responsabilité. Ouais. Avant tout, le poids du sort du monde est mis sur les épaules de l'homme. Et pas sur.
Assez intéressant, c'est que c'est assez admis par quasiment tout le monde. Tout le monde est d'accord que, au niveau de. Que t'as une responsabilité personnelle d'avancer, de grandir, de parfaire tes tares et tes imperfections, etc. Mais lorsqu'on parle de l'histoire et du retour du peuple juif sur sa terre et de la Géoula, etc., là, d'un coup, on a une vision extrêmement passive de, les choses doivent se faire d'en haut. Et encore plus lorsqu'on voit ce qui s'est passé 150 dernières années,
L'expérience, même spirituelle du peuple juif n'a jamais été, ça n'a jamais été. Il y a de ça un petit peu, mais ça veut dire que c'est essentiellement pas été que Dieu nous emporte, un truc qu'on est courant dans une espèce d'extase permanente de proximité avec le divin. Non, il y a quelque chose à faire, il y a un travail, il y a des responsabilités, il y a une exigence. Et c'était un très bel article, et ça résonne avec ce que tu dis, un peu faire une pensée adulte.
Ouais. Du retour. Je veux juste ajouter un dernier point avant de finir, c'est que des gens vont nous dire, alors quoi, vous appelez à l'Alia demain, ça veut dire
c'est
que,
là
tout, monde
prendre,
non, c'est là que tout le monde doit prendre ses valises, etc. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que
donne une réponse claire pour les gens qui écoutent et qui ne savent plus quoi faire maintenant.
C'est-à-dire que premièrement, ce qui importe le plus, c'est dans quelle conception tu vis. Et je pense que la conception qui m'a l'air d'être la plus juste, c'est que oui, on vit une époque particulière du retour du peuple juif après 2000 ans d'exil, et que oui, on voit qu'il y a un mouvement providentiel qui permet ça, et que oui, on a une responsabilité pour faire avancer ça. Et que oui, cette grande famille, ce grand corps est en train de se réunir, et qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à construire ici. Ça, c'est la conception. Est-ce que ça doit se faire pour certaines personnes demain ou après-demain? Est-ce que certaines, je pense qu'il y a une grande différence, par exemple, entre des jeunes et des familles. C'est pas le même discours. Des familles, préparez bien, faites tout le travail qu'il faut de préparation. Il y a une responsabilité, etc. Des jeunes, alors des jeunes, à mon avis, c'est beaucoup plus facile, vous êtes beaucoup plus léger.
C'est l'âge des risques.
Voilà, c'est très sympathique aussi ce qui vous attend ici. Je pense que c'est pas le même discours. C'est pas le même discours entre des gens qui ont cette responsabilité-là, etc. Mais ce qui importe, c'est dans quel est le monde de conception? Quel est le monde de conception? Est-ce qu'on réalise la chance de vivre dans une telle époque? La responsabilité qu'on a? Est-ce que maintenant on arrive à ressentir, c'est un peu ce qu'on a dit au début, le fait que l'appartenance, le fait que non, je suis pas juste un individu ou une communauté aux quatre coins du monde et voilà, c'est ça ma manière d'être juif. Mais non, fondamentalement, on appartient à un grand nous, à une grande destinée et qui a la chance de commencer à remonter sur la scène de l'histoire. Et après, une fois qu'on a ça en tête, alors je fais confiance à chacun pour mettre en ordre ses affaires et trouver le moyen de contribuer. Mais bon, c'est vrai qu'on vit, je trouve ça admirable, le fait de voir dans une période aussi compliquée, autant de personnes qui sont prêtes à venir. Bravo à tous.
Ouais, bravo à tous. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette conversation. Et voilà, on souhaite tous ceux qui préparent leur alia de la préparer. Prenez votre temps, faites-la bien. Et voilà. Ici, nous, on habite ici, on est là pour vous.
Si vous avez on vous accueille, bras ouverts.
On vous accueille, et bras ouverts.